Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, et bonsoir. La situation sécuritaire au Mali, c'est d'elle que nous allons une fois de plus parler. À cela, deux raisons. La première, c'est une double déclaration relative à l'amélioration de la situation elle-même relative à la lutte contre le terrorisme au Mali. La première émane donc du nouveau commandant de la force Barkhane. Celui-ci a en effet déclaré que les groupes djihadistes du Sahel n'ont plus la capacité tactique de prendre une ville et de la contrôler au Sahel. Abondant dans le même sens, l'ambassadeur de France en fin de mission au Mali disait lui aussi que le terrorisme est en train de reculer au Mali grâce aux efforts de la force Barkhane, des forces maliennes et de la communauté internationale. Alors, deuxième raison du choix de ce sujet, ces déclarations interviennent au moment où au Mali les attaques se poursuivent sur le terrain. Question, la situation sécuritaire s'est-elle réellement améliorée? Sinon, sur quoi reposeraient-elles ces déclarations optimistes? Ce sont quelques-unes donc des questions que nous allons adresser à nos invités qui sont André Bourgeot, il est directeur de recherche au CNRS à Paris, il sera donc en ligne. Nous avons dans ce studio le docteur Brema Elidiko, il est enseignant chercheur à l'Université de Bamako, spécialiste des questions de sécurité, et Ousmane Cornéo qui est spécialiste des questions de sécurité dans le Sahel. À la présentation, c'est Ibu Foma.
Le grand dialogue.
Bienvenue à toutes et à tous. Le terrorisme au Mali se serait-il affaibli au point que les terroristes ne peuvent plus mener d'action d'envergure? Des propos, en tout cas provenant de la force Barkhane et de l'ambassade de France, vont clairement dans ce sens. Ce qui ne semble pas être l'avis de plus d'un Malien avec les attaques qui se poursuivent sur le terrain. Pour comprendre ces propos, dans quel contexte faut-il les mettre? Je pose la question à vous. Monsieur Cornéo.
Merci beaucoup, Fomba. C'est vrai que j'ai suivi aussi ces propos, mais ça dépend de quelle partie du Mali on se situe. Parce que, à ma connaissance, il y a trois Mali. Il y a le Mali du Sud, il y a le Mali du Centre, il y a le Mali du Nord. S'il s'adresse au Mali du Sud, il faut reconnaître quand même depuis que la décapitation du groupe en Sardine avec la restauration de Keïta et puis. Je ne me rappelle pas de l'autre, le deuxième. Il semble qu'il y a une accalmie quand même au sud, dans les villes. Les gens s'y voient qu'à leur affaire et puis les fêtes sont bien passées. Mais quand on va au Mali du centre, il faut reconnaître quand même que la situation s'est plutôt aggravée. Aggravée à tel point que je suis de cette zone, c'est un nomad land aujourd'hui. Mais quant au Nord, j'ai toujours dit le Nord, quand ils disent que les choses sont améliorées au Nord, c'est eux qui le savent, c'est eux qui sont là-bas. Il n'y a ni l'armée malienne, il n'y a ni les autorités maliennes. Ils sont seuls Barkhane avec les groupes armés et les djihadistes. Mais s'ils disent que ça s'est amélioré, ça n'engage que, en tout cas, nous qui sommes au Sud, au Centre, nous ne sommes pas au courant.
Merci. Brema Elidiko.
Bien, bonsoir, merci de m'avoir associé en fait à ce débat intéressant. Bon, moi j'ai écouté ces déclarations comme tout le monde. Si jamais cela s'avérait être vrai, ben c'est une bonne nouvelle pour le Mali et tous ceux qui sont venus en fait au secours du pays. Mais cependant, la réalité quotidienne dément, je pense, des propos, en réalité qui visent beaucoup plutôt à satisfaire l'opinion internationale et à justifier un peu les sous qui sont injectés dans Barkhane et autres. Parce que la vérité, c'est que chaque jour, la situation se détériore, il y a des attaques à la fois des représentants de l'État, de l'armée malienne. À chaque 2-3 jours, vous entendez qu'il y a eu des embuscades par-ci, par-là. Disons que peut-être que les groupes sont organisés différemment qu'avant 2013, mais dire que la situation s'est beaucoup améliorée, je pense que c'est tout à fait faux. Parce que vous vous rappelez, il y a seulement quelques mois, il y a eu la création du mouvement d'Oumar Al-Janna. Pas plus tard que 2-3 semaines, il y a y a une, le MNLA s'est fissuré, donc il y a un autre groupe qui s'est créé. Donc je pense que les groupes ont juste changé de stratégie. L'ennemi n'est plus visible tel qu'il était en fait il y a quelques mois, mais en réalité la situation reste beaucoup plus tendue. Et d'ailleurs, je ne dirais pas qu'on tend vers l'embrasement, mais la situation est tellement complexe aujourd'hui on doit plutôt s'inquiéter que de prononcer peut-être des paroles comme ça en réalité qui sont sans un grand fondement.
Mmh. André Bourgeot, qui est donc directeur de recherche au CNRS, est en ligne à Paris. Monsieur Bourgeot, nous savons que vous vous intéressez de près quand même à la situation au Mali, et c'est vrai que vos séjours sont en plus d'ailleurs fréquents. Alors, ces propos très très optimistes, est-ce qu'ils sont vraiment, ils sont en parfaite harmonie avec la situation sur le terrain, ou bien c'est des propos qui ont plutôt une portée psychologique?
Bon, je pense que c'est quand même des propos, excusez-moi, je vais les caractériser, c'est des propos quand même de nature un petit peu démagogique, parce que au vu de ce qui se passe au Mali, disons depuis 2 ans, il y a eu une accélération, que je date à peu près depuis 8 ou 10 mois, disons un an globalement, une accélération des pratiques perpétrées par les groupes armés narco-djihadistes, par les groupes salafistes djihadistes, qui ont changé de stratégie et qui ont capacité à s'adapter aux nouvelles situations politiques et militaires. J'en veux pour preuve les attentats qu'il y a eu aux frontières, donc on peut dire qu'il y a un déplacement d'attentats de type terroriste, salafiste, djihadiste aux frontières. Encore plus récemment, ce qui s'est passé à la frontière nigéro-malienne, puisqu'il y a eu une attaque qui a été perpétrée sur les camps de réfugiés. Donc globalement, je dis bien globalement et ponctuellement, si on fait une addition des actes commis par les salafistes et djihadistes, il y a quand même une aggravation de la situation. Par ailleurs, il est très difficile d'établir des distinctions entre les pratiques exercées par les salafistes et djihadistes des activités de type criminel. Donc ça pose le problème de l'insécurité qui tend à se généraliser sur l'ensemble du territoire malien. Autrefois, ça veut dire il y a à peu près un an, c'était surtout le septentrion qui faisait l'objet de l'insécurité. Ça renvoie aussi, quand je dis ça, ça renvoie aussi au contenu des accords d'Alger qui ont privilégié les situations politico-militaires au nord, et dans cet entraînement, et qui n'ont pas pris en compte ce qui allait se passer et ce qui se passe actuellement dans le Mali central, et plus particulièrement dans le Masnada. Donc non, je pense que la situation s'est aggravée, même s'il y a eu des têtes pensantes qui ont été tuées, ça n'a pas contribué à une déstructuration, à un démantèlement des réseaux terroristes. Malheureusement, loin s'en faut.
Alors, Ousmane Korn, allez-y.
Il faut aussi mentionner la prolifération, la création d'une milice d'autodéfense à caractère ethnique. Je ne vais pas faire un recensement détaillé, mais il doit y en avoir actuellement au Mali 6 ou 7. Vous avez la milice d'autodéfense Touareg Gatia, vous avez maintenant aussi la milice d'autodéfense Peul, c'est quand même un événement nouveau,
Peul,
c'est pas n'importe quoi.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ces aspects. En attendant, voilà la question que je vais donc poser. Alors, Ousmane Cornéo, André Bourgeot le disait, l'ambassadeur de France au Mali dit qu'il faut faire la différence entre le terrorisme et les attaques qui sont souvent l'œuvre des bandits. Alors, comment procéder à cette délimitation?
Ben, je ne sais pas comment faire la délimitation, parce que qu'il s'agisse de bandits ou qu'il s'agisse de terrorisme, les modes opératoires sont les mêmes, les conséquences sont les mêmes sur les mêmes populations, chez les populations. Je ne sais pas. Pour moi, c'est les mêmes. Il est vrai que avant la signature de l'accord, on avait pensé qu'il y avait les terroristes à part et qu'il y avait les groupes armés à part qui faisaient du banditisme, et que dès que l'accord serait signé, les groupes armés allaient être du côté du gouvernement et qu'il y aura un seul ennemi qui serait les terroristes. Tout le monde a été détrompé, parce que après la signature de l'accord, les mêmes activités ont continué, à tel point qu'on ne sait plus qui est bandit et qui fait des actions pour la survie et qui est terroriste. Mais qu'à l'ancienne, moi, je ne sais vraiment pas cette différence. Je sais qu'ils font tous la terreur et terrorisent les populations.
Vraiment, Eli Diko, comment savoir au Mali, dans le contexte malien, qui est terroriste ou qui est simplement bandit?
Bon, tout cela dépend en fait de qui parle. Hein. Vous savez que les autorités et les partenaires font le choix de considérer certains groupes comme étant des groupes en fait qui sont en fait des Maliens, donc ils réclament plus d'autonomie, de ceci, cela. Donc ça dépend de seulement de qui parle. En réalité, il n'y a pas de frontières.
Sur quels critères se base-t-il pour faire cette différenciation?
Alors, en fait, peut-être il faut être dans le secret de Dieu pour maîtriser un peu tout ça. Dans tous les cas, moi, je pense hein, sincèrement qu'il n'y a pas de frontière entre les différents groupes. Peu importe qu'ils disent qu'ils sont indépendantistes, pas indépendantistes, djihadistes. De toute façon, personne ne réclame. Rares sont les groupes qui se réclament du djihadisme. Mais ce qui est sûr, tous ces groupes-là cohabitent sur le même territoire. Tous ces groupes-là sont composés des mêmes cousins, des mêmes amis qui ont appartenu au même groupe. Et maintenant, en fonction justement de l'occasion, on quitte un groupe, en fait, on va dans l'autre. Vous prenez le HCIA, c'est beaucoup plus des gens en Sardine. Il ne faut pas se mentir. Bon, c'est ça la vérité. Mais de toute façon, aujourd'hui les HCIA se retrouvent dans la CEMA et que la CEMA soit en fait adoubée par la communauté internationale et par le Mali, même si le Mali est contraint de le faire, bon ça c'est autre chose, mais tout le monde le sait au fond, même si les gens ne le disent pas, que dans le HCIA de façon générale, bon on a des gens qui ont appartenu au groupe djihadiste et qui en réalité continuent à avoir des relations avec les groupes djihadistes, ça c'est le cas. Mais dans tous les cas, moi je pense que quand vous prenez tous les groupes, hein, peut-être à part les groupes d'autodéfense, tous ces groupes là à un moment donné ont collaboré avec soit les narcotrafics, soit avec des groupes djihadistes. Maintenant, lorsqu'on veut négocier, bon, on peut juste se couvrir. On va dire, bon, on n'a plus de relation avec un tel groupe, ça c'est facile. Maintenant que la communauté internationale l'accepte et le dise comme ça, bon, pourquoi pas, ça les regarde en tant que politique. Mais dans les réalités, il y a une collaboration étroite entre tous ces groupes parce qu'ils sont tous sur le même territoire. Chacun négocie simplement sa place et c'est ce qui permet aux uns aux autres de survivre. C'est tout.
Professeur Bourgeot, des attaques qui sont signées des terroristes, d'autres signées, on dit des simples bandits. Est-ce que le passage d'un côté à l'autre est aussi compliqué dans ce contexte?
Je pense qu'il y a déjà une ambiguïté très très forte dans l'utilisation du terme terroriste. C'est un terme tellement général qu'on peut le mettre à toutes les sauces. Pour le moment, au Mali, officiellement en tout cas, on applique le terme aux seuls groupes armés salafistes djihadistes. À mon avis, c'est un abus. Je pense que les activités et les actes terroristes dépassent largement ces groupes salafistes djihadistes. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces groupes ne sont pas des entités hermétiquement fermées, loin s'en faut. Il y a une sorte de porosité entre les différents groupes. Une fois, vous pouvez aller dans un groupe et puis le lendemain, enfin, c'est une image le lendemain, hein, aller dans un autre groupe. Donc il y a une grande flexibilité entre les différents groupes, les différents groupes qui souvent ont des objectifs un petit peu différents, mais qui se retrouvent quand même sur des invariants. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut parler de porosité entre les différents groupes. Il suffit que dans un groupe, j'ai un élément de ma famille ou un voisin, etc., et à la faveur d'une action, je vais rallier ce groupe-là ponctuellement. Et ça crée des conditions de la difficulté parce que c'est extrêmement difficile à cerner la composition de ces groupes-là qui sont, dont les pratiques se font particulièrement sur une grande capacité de mobilité, ce sont des petits groupes, et une grande capacité de flexibilité. Et en face, ces groupes autonomes, souvent hétérogènes, on a affaire à des militaires qui, eux, sont beaucoup plus stricts et soumis à toute une technologie et à tout un tas de pratiques qui ne correspondent pas du tout aux pratiques des dits terroristes. Et donc là, c'est la raison pour laquelle je pense que ces groupes-là ont des capacités d'adaptation redoutables, je dis bien redoutables, face à des armées, que ce soit Barkhane, que ce soit la MINUSMA ou les FAMA, qui eux sont encore dans des logiques militaires de type guerre. Or, je ne pense pas qu'on puisse appliquer le terme guerre à ce qui se passe au Mali. Maintenant, les capacités d'adaptation de ces groupes-là conduisent à procéder actuellement à des harcèlements et à un déplacement sur les frontières. Et ça me paraît significatif.
Studio Tamani, la suite 2, se débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani.
La situation sécuritaire au Mali, c'est d'elle que nous parlons dans cette émission. Alors, nous l'avons dit, il y a eu des déclarations assez pessimistes, assez optimistes, disons, par rapport à l'évolution de ce qui se passe à travers le pays. Alors, il y a eu en plus quand même cette annonce, vous savez, on a toujours dit qu'il revient à l'armée, aux forces armées maliennes de jouer un rôle primordial dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre l'insécurité. Alors, il y a eu quand même cette annonce, l'annonce donc d'une unité de lutte contre le terrorisme. On annonce d'ailleurs que 16 éléments sont déjà formés. Alors, est-ce que si cette unité était créée, est-ce qu'elle a les chances de pouvoir faire tache d'huile, Ousmane Cornéo?
Bon, il faut reconnaître quand même, depuis un certain temps, avec la création de l'EETM et son intervention, ensuite la création de ECAP Sahel et son intervention, et toutes ces deux structures ont pour mission de renforcer les capacités et des forces armées maliennes pour ETM et des forces de sécurité pour ECAP Sahel. Et avec la création de cette unité, et tout ça pour moi c'est pour préparer dans l'avenir. Mais dans le présent, je pense que même si les hommes qui ont été formés ne sont pas encore sur le terrain, et ils ne sont pas encore opérationnels, mais on peut espérer que dans un proche avenir, les capacités vont être renforcées et les performances vont être encore plus renforcées et qu'ils pourront intervenir. Mais pour le moment, on ne sent pas sur le terrain les résultats de ces nouvelles créations et des formés.
Brema Elidiko, il y a eu des formations, des séances de formation pour les militaires maliens. Je le disais, 16 éléments viennent d'être formés. Alors, ils vont faire partie d'une unité qu'on appelle l'unité de lutte contre le terrorisme. Alors, c'est quand même assez important comme nouvelle, non?
Ouf, oui, après, ça dépend de comment on prend ces nouvelles-là. Moi, c'est une bonne chose qu'on crée des unités comme ça. Mais déjà, ce n'est pas une lutte même pour des unités spéciales comme ça. C'est-à-dire que je souhaite vraiment plein succès aux FAMA. Mais il faut plutôt, je pense, changer de stratégie. Parce que les groupes ont compris, les groupes extrémistes violents s'adaptent. Ce n'est pas seulement des unités comme ça qui arrivent à lutter contre le terrorisme. Moi, je pense qu'il faut gagner la confiance des populations plutôt, chercher à changer les pratiques de certains militaires maliens qui, de temps à autre, débordent, quoi. Et quand on arrive à faire ça, on change de comportement, on gagne la confiance des populations, on arrive à les faire comprendre leur rôle dans la gestion de la sécurité, parce que c'est pour leur bien et c'est pour le bien de tout le monde. Donc moi, je pense que c'est ce qui va plutôt permettre aux FAMA et à la communauté internationale de gagner contre les terroristes, parce que, vous savez, quand les terroristes arrivent, ce sont les populations qui sont les premières, qui savent qui est terroriste, qui ne l'est pas. Et donc, lorsqu'on n'a pas la confiance de ces populations, même si vous formez 1 million de personnes, ça ne servira absolument à rien du tout, parce que le Mali a cette frontière et les frontières sont poreuses, et ça, on ne va pas faire une leçon là-dessus. Je prends juste un exemple. Vous savez, il y a un boulanger marocain qui chaque jour recevait une famille qui achetait 2 miches de pain pendant quelques temps. Et puis pendant 3 ans plus tard, la même famille est venue acheter 10 miches de pain. Ça a tiqué le boulanger, il n'a pas posé la question à la famille. Il est plutôt parti voir le commissariat du coin, il a dit « Ah, attention, cette famille, depuis 3 ans, achetait en fait 3 miches de pain. Aujourd'hui, elle a acheté 10 miches de pain. » Et le commissariat est parti faire des investigations, on a trouvé qu'il y avait des malfrats. Donc, en fait, c'est des exemples comme ça. Mais au Mali, les populations n'osent pas aller donner l'information. Parce qu'il y a eu des cas concrets. Quand vous donnez l'information, après, c'est vous qui êtes décapité. Vous savez qu'à Berk, quelqu'un a été décapité comme ça. À Tougou, les gens ont été décapités. Donc, tant qu'on n'a pas la confiance des populations, même si vous formez 2 millions, 3 millions de personnes, ça ne sert absolument à rien du tout. Donc, il faut que les militaires changent de comportement parce qu'au centre, il y a eu des exactions.
Alors, professeur Bourgeot, quand on se réfère aux informations qu'on entend de temps à autre par rapport à la formation des militaires maliens, on a l'impression que les choses peuvent bientôt mieux aller, et surtout l'annonce de la formation de ces 16 éléments qui vont faire partie d'une unité de lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, au vu de ce que je viens d'entendre, procéder à une formation, y compris dans des processus de spécialisation de groupe, Le problème ne sera pas du tout résolu. On voit bien qu'actuellement au Mali, il doit y avoir à peu près 20 000 soldats, y compris des soldats étrangers, etc. Jusqu'à présent, ils n'ont entretenu aucun rapport privilégié avec les populations. Donc si cette armée malienne qui reçoit des formations spécialisées ne crée pas, mais ça c'est un problème aussi de décision d'ordre politique, si ces armées-là ne crée pas les décisions d'insertion, pas plus qu'une insertion, une insertion avec la population, bon, ce sera voué à l'échec, d'autant que l'armée malienne est traversée aussi par des contradictions, par des enjeux et par des positions politiques qui ne sont pas homogènes. Tout à l'heure, l'intervenant précédent faisait référence au Mali central. Les propos que tiennent les populations du Mali central et plus particulièrement les Peuls dénoncent les exactions commises par certains éléments des FADA. Des exactions qui vont jusqu'à l'exécution de assimilés aux djihadistes. Donc vous voyez, il y a toute une campagne de sensibilisation pour modifier l'état d'esprit au sein de l'armée malienne, parce que certains de ces éléments-là ne sont pas encore dans une conception et dans une pratique d'armée nationale républicaine. C'est ça, me semble-t-il, le gros problème.
Alors, nous allons à présent nous intéresser à une loi. Il s'agit de la loi de programmation militaire. N'est-ce pas là un élément important dans la sécurisation du pays, Ousmane Corneo?
Oui, la loi de programmation militaire s'adresse aux militaires. Mais il faut rappeler aussi qu'ils sont en train de réfléchir sur une loi d'orientation de programmation de la sécurité. Parce qu'initialement, on avait pensé que la loi d'orientation et de programmation militaire prenait en charge et les militaires et les agents de sécurité.
Mais ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas. Actuellement, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train d'élaborer une loi d'orientation et de programmation de la sécurité. Parce qu'en fait, la sécurité relève des agents de sécurité. Bon, il faut reconnaître que tout ça, ce sont des mesures qui pourront porter leurs fruits à long terme, moyen et long terme, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dont on a besoin. On a besoin des forces de sécurité qui ont un comportement adéquat et qui se rappellent qu'ils sont dans un pays en guerre, qui n'attendent pas d'être attaqués pour réagir, mais qui anticipent sur les choses et qui prennent des indices, qui ont des indices qui les permettent d'identifier les malfaiteurs, les terroristes et qui les mettent hors d'état de nuire. Et c'est ça, c'est tout un certain nombre de comportements qui doivent être développés en attendant que ces deux lois puissent être appliquées et que les énormes moyens qui sont annoncés puissent être mobilisés et qu'il y ait aussi la formation, l'équipement, les infrastructures qui rendent beaucoup plus performantes aussi bien les forces armées que les forces de sécurité.
Vraiment, Elidico.
Bien, moi je pense que avoir une loi est une bonne chose, mais au Mali en réalité c'est pas ce qui manque. À longueur de journée on adopte des lois, mais c'est la question de l'application des lois. Dans tous les cas, les lois sont appliquées par des personnes. Réformer le secteur, la loi de programmation militaire rentre dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Le problème, je pense, au Mali, c'est qu'on a tendance à croire que la sécurité incombe seulement aux militaires ou aux porteurs d'uniforme. Comme j'ai dit, tant qu'on n'aura pas une autre lecture de la sécurité, en associant la population à cette lecture-là, à la question de la sécurité, l'insécurité va toujours régner. Les premières victimes sont la population. Comment vous voulez résoudre un problème sans les propres bénéficiaires? Ça ne peut pas marcher du tout. Donc, c'est une bonne chose, ça fixe le cadre. Ok, mais il y a eu tellement de lois avec tellement d'insuccès que finalement, on se rend compte que les lois sont un peu comme les pompiers, ça arrive un peu en retard. Bon, si la loi permet de mettre plus de moyens à la disposition des militaires et de les former, tant mieux. Mais tant qu'on ne va pas, je pense, redéfinir la stratégie pour faire en sorte que les populations soient au centre de cette lutte contre l'insécurité de façon générale, je pense qu'on n'ira pas loin. C'est ça la vérité. Et depuis, jusque-là, on est en train de faire une lecture un peu top-down, quoi. Tout est défini dans les assemblées, on vote des choses, on forme les militaires, mais on se rend compte que c'est une question de comportement et une question de gouvernance. Dans tous les cas, l'insécurité, elle est quotidienne. Les gens vivent au jour le jour et les exactions sont quotidiennes et il y a eu beaucoup d'amalgames. Et tant que, rapidement, on ne voit pas la question de la gouvernance même au niveau des localités, l'insécurité va continuer en fait à grimper. Parce que nous savons, qu'est-ce que vous prenez le centre, hein, beaucoup de personnes en réalité ont des dents contre les représentants de l'État, les assassinent au quotidien, non pas parce qu'ils sont djihadistes ou autres, mais parce qu'à un moment donné, il y a eu un problème de gouvernance, à la fois des préfets, des sous-préfets, des gendarmes, des agents des eaux et forêts, des justices mal rendues. En fait, on n'a pas trouvé la solution à ça. On est en train de faire comme si c'est un épiphénomène. Moi, je pensais sincèrement, quand Malemana en fait était arrivé, qu'au-delà donc des habitudes forum, des histoires de missions qui viennent, qui essaient de dire oui, dialoguons, depuis 1000 ans en fait on vit ça, c'est du baratin, ça c'est bien, mais il faut dépasser ça pour arriver en fait à situer les responsabilités, à savoir qui a fait quoi, et à un moment donné en fait à appliquer la justice. Comment vous voulez qu'une loi arrive à résoudre le problème tant que en fait il n'y a pas de justice? Donc c'est vraiment ça en fait. Et si on arrive à revoir la gouvernance en attendant, parce que la loi ça prendra du temps, hein. On va voter ça, on forme les militaires, mais la formation prendra du temps. Et les gens pendant ce temps-là continuent à acheter des armes, à régler eux-mêmes les problèmes. Et donc l'État lui est absent, on va envoyer des militaires avec très peu de moyens qui vont en fait adopter l'ancienne stratégie en fait de recherche des terroristes et autres. Et en même temps de temps à autre il y a des amalgames, on fait des arrestations, les gens sont frustrés, de frustration en frustration, si on ne change pas la stratégie, les gens vont en fait être vexés et être tentés à être cooptés par tous les différents groupes d'autodéfense et autres groupes djihadistes, comme on disait. Les frontières sont poreuses. Les gens vont dire, ben, si l'État n'est pas là, nous, en fait, on résout nos problèmes.
Le professeur Bourgeot, Ibrahima Eli Diko le disait, alors une loi, c'est bien, mais elle ne résout pas tous les problèmes. Mais est-ce que ce n'est quand même tout de même pas important qu'on ait songé à une loi de programmation sécuritaire en plus de la programmation militaire?
Oui, je répondrai que la loi a souvent comme valeur, la valeur de la loi, pas plus, parce qu'effectivement se pose le problème des conditions d'application, voire d'instrumentalisation de la loi qui ne s'exerce pas toujours à des fins juridiques. En utilisant ce type de langage, je fais référence aussi à l'impunité. C'est-à-dire que la loi, on le voit, elle est souvent transgressée, c'est un euphémisme, y compris par les autorités politiques. Donc, quelle est la valeur concrète d'une loi? Mais je voudrais reprendre le raisonnement que j'ai engagé tout à l'heure à propos de la formation des militaires. C'est une bonne chose, cette formation, la formation de groupes spécialisés. Mais à ma connaissance, je ne suis pas dedans, mais ces groupes spécialisés, ils sont tous formés sur la base de techniques militaires. Ça veut dire que tout l'aspect sociologique, tout l'aspect psychologique, il me paraît fondamental, en tout cas tout aussi important que les techniques militaires, sont complètement évacués. Donc ça repose le problème de la nature de la formation. Et dans ce contexte, dans le contexte qui prévoit actuellement, qui est un contexte de conflit, on ne peut pas faire l'économie non plus d'introduction d'un minimum d'approche sociologique et d'approche aussi psychologique. Parce que on voit bien, le pays actuellement est divisé en ethnies, avec plus particulièrement à travers les milices d'autodéfense, etc. Donc il y a tout un travail de nature anthropologique et politique à faire auprès des hommes en uniforme, y compris les hommes en uniforme de Barkhane, parce que eux aussi, ils sont animés par des logiques de techniques militaires. Mais tous les aspects sociaux, pour parler large, sont souvent évacués. Donc je pense qu'une formation qui voudrait être efficace renvoie à deux choses. Les conditions d'insertion, de collaboration, c'est peut-être un peu trop fort. D'insertion avec les populations, il faut aussi qu'il y ait un travail politique qui soit fait auprès des populations. Mais si ce travail politique n'est pas fait auprès des hommes en uniforme, qui quelquefois connaissent des exactions, ces exactions-là sont globalisées par ceux qui en sont victimes. On dit les FANA. C'est pas les FANA en soi, c'est certains éléments ou certains donneurs d'ordre qui donnent l'autorisation ou qui couvrent ces exactions-là. Donc, encore une fois, ça insisterait beaucoup sur la nécessité d'engager des processus de sensibilisation fondés sur des approches anthropologiques, sociologiques et politiques qui visent justement à modifier, à changer l'état d'esprit. Ça va demander du temps. Mais si on commence comme ça, je pense que ça peut avoir un impact important parce que ça crée des conditions de la reconnaissance de l'autre. Et ça, ça me paraît fondamental.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Puisqu'il est question des forces de sécurité maliennes, on ne peut s'empêcher de poser cette question par rapport quand même à un événement récent. Le ministre de la Défense a été remplacé. On ne sait forcément pas pour le dessous de ce départ, mais peut-on parler de l'existence d'une volonté véritable d'aller vers le renforcement des forces armées maliennes, Ousmane Kone?
Bon, ça c'est une question politique. Et c'est un terrain dans lequel, sur lequel je ne souhaiterais pas m'hasarder, mais c'est que je sais quand même que je n'ai pas douté un seul moment de la volonté politique, mais il faut reconnaître que la volonté seulement ne suffit pas. Et pour diriger un département comme la défense, un département comme la sécurité, en plus de la volonté politique, il faut aussi avoir la maîtrise du sujet. Et en cela, j'ai toujours pensé quand même que il y avait peut-être au Mali bien meilleure personne pour maîtriser le sujet de la défense que celui qui l'occupait. Surtout que les débats qui ont précédé son départ quant aux attitudes que les forces armées et de sécurité devraient adopter face aux différentes attaques m'a laissé sur ma faim par rapport à la position qu'il avait.
Donc il n'y a pas peut-être un lien entre les deux événements, n'est pas à exclure, hein, peut-être.
Bon, je ne sais pas. Je dis que c'est politique. Le président a le libre choix de composer son gouvernement avec le Premier ministre. Mais j'ai dit que je ne doute pas de la volonté politique du gouvernement. Mais comme je l'ai dit, je répète encore, seulement la volonté ne suffit pas. Et quand un pays est en crise comme celui du Mali, on a besoin vraiment de quelqu'un qui connaît le métier, un technocrate et qui sait prendre des décisions et quand il le faut, au moment où il le faut. Merci.
Le docteur Brema Eridiko.
Bon, disons que nul n'est irremplaçable. De toute façon, un ministre occupe un poste politique, donc il est sur... c'est un jeu de chaises musicales. Hein. Il n'était pas là, il est venu, il est parti. Donc, on lui souhaite une bonne vie politique. Hein. Est-ce que le changement de ministre en soi résout le problème? Je ne pense pas. Mais généralement, lorsque il y a un problème comme ça dans un département, pour calmer un peu les esprits et montrer qu'on a de l'initiative, souvent, il est de coutume de changer de ministre. Donc, c'est beaucoup plus... sinon, c'est vrai que celui qu'on vient de mettre, peut-être des régions, on va penser qu'il connaît, des régions nord, il connaît mieux. On verra, donc le temps nous donnera l'occasion de juger. Mais en tout cas, en temps de guerre, les dispositifs doivent être adaptés. Parce que, qu'on le veut ou pas, l'insécurité qu'on a aujourd'hui, on ne l'a jamais connue. Et la situation est telle qu'il faut encore redoubler d'efforts pour que nos forces armées de sécurité soient mieux outillées pour pouvoir s'adapter en fait à la nouvelle menace à laquelle ils font face.
Professeur Bourgeau, pour gérer une situation sécuritaire comme celle qui prévaut au Mali, ce n'est pas simple. La seule volonté politique ne suffit pas, mais la volonté politique est quand même indispensable, non?
La volonté politique, elle est fondamentale, elle est capitale, à condition qu'elle s'applique, à condition qu'il y ait effectivement des actes politiques qui soient mis en œuvre pour aller dans le sens de la sécurisation, cette fois-ci, de l'ensemble du pays. Parce que quand même, l'insécurité, elle se ramifie de plus en plus sur l'ensemble du territoire national. Alors ça nous permet de revenir aux accords de paix accords d'Alger. Les accords de paix prévoient la tenue d'une conférence d'entente nationale. Cette conférence d'entente nationale, il y a deux mots qui me paraissent importants, c'est entente nationale. Et si effectivement les autorités politiques avaient pris l'initiative de mettre sur pied cette conférence d'entente nationale, d'abord elle aurait libéré la parole, et puis ensuite ça aurait permis aussi de cerner de futurs éléments constitutifs d'élites politiques et et ça, ça me paraît important, une conférence nationale, une conférence d'entente nationale aurait recréé du lien social. Or, ce qui manque actuellement au Mali, c'est ce lien social dans une perspective de maintien ou de restauration de la nation. Là, on voit bien que la nation malienne, elle commence à s'effriter d'une manière assez sérieuse avec justement la composition de groupes à caractère ethnique. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'ethnicisation du politique à travers les groupes qui se constituent de plus en plus. Et ça, c'est quand même révélateur d'un affaiblissement, voire même du délitement de l'État national et plus particulièrement de l'État central. Donc on ne peut pas faire l'économie dans des circonstances comme ça de recourir au peuple. Et une conférence d'entente nationale, c'est aussi un moyen de restaurer du lien social avec le peuple, cette fois-ci le peuple au niveau national, mais aussi avec les populations locales et régionales. Je pense que ce serait peut-être une possibilité de restaurer ce lien social. Mais encore, faut-il qu'il y ait réellement une volonté politique qui aille dans ce sens? Or, jusqu'à présent, on ne parle pas du tout des conférences d'entente nationale. Ça, je le regrette beaucoup.
Les uns et les autres l'ont effleuré, les groupes qui se constituent et les groupes Peul, on en parle beaucoup ces derniers temps. Il y a même eu ces jours-ci des déclarations que d'aucuns qualifient de propos va-t-en-guerre. Alors, Ousmane Cornéo, est-ce qu'on doit se faire des soucis?
Bon, moi j'ai toujours eu des soucis pour ce milieu dont je suis ici moi-même. Et je suis bien du Delta et je suis avec... Et intérêt et inquiétude de tout ce qui se passe. Et je souhaite vraiment que cette situation soit gérée au plus vite. Mais ce n'est pas facile actuellement, à l'heure actuelle, à l'heure de la saison qui fait. Il n'est pas facile d'opérer ni dans le Delta, ni dans le Gourma, parce qu'on ne peut pas circuler. Donc je crois qu'on risque de prendre encore notre mal en patience, mais il faut quand même qu'on y veille, parce que je crois que ça sent très mauvais tout ce qu'on apprend de cette zone, de ce que se prépare. Malheureusement, comme je connais cette zone, je sais qu'on ne peut rien faire pour le moment.
Docteur Bema Elidiko.
Bon, vous savez, Omar Al-Janna a créé le mouvement, j'avais la chance de venir sur ce plateau et j'avais dit que si on ne prend pas la mesure du phénomène, d'autres groupes allaient se créer. Et je réitère ce propos. Je pense que jusque-là, d'autres groupes sont en voie de création. Il y a des groupes qui sont créés, mais qui ne sont pas en fait officialisés. Donc du coup, on a l'impression que bon, il y a que 4 ou 5 groupes d'autodéfense en réalité, que bon, qui ont voix au chapitre pour le moment. Il n'y a pas de groupe armé Peul en tant que tel. C'est vrai que dans la zone de Mondoro, vous avez Dental Poulaku, vous avez le mouvement de Omar Al-Janna. Mais Omar Al-Janna aujourd'hui ici, il avait dit que c'était Alliance pour la sauvegarde de l'identité peul ou autre. Aujourd'hui, ce mouvement est beaucoup plus composé de différents groupes. Hein. Il y a des Peuls, il y a des Bambara, des Morts, des Dogons et d'autres communautés. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de frustrés qui se retrouvent dans différents groupes, que le MSA vient d'être créé, donc une branche de MNLA. Ce n'est pas exclu que dans quelques temps que les Dogons aient créé leur groupe. Hein. Je ne le dis pas parce que je suis pessimiste, mais c'est simplement la réalité. Vous savez, moi, j'ai quitté Douanzan il y a une dizaine de jours. Moi, j'étais frappé que d'ici Douanzan et de Douanzan à ici, aucun de nos cars n'a été contrôlé et que tout ce qu'on nous a demandé, tout ce qu'on a contrôlé en réalité, ce sont nos pièces d'identité. Quand vous n'avez pas de carte d'identité, vous payez 1000 francs. Quand vous avez une carte d'identité qui est périmée, vous payez 500 francs. Donc, c'est ce que j'ai vu. Donc, tel que j'ai vu la situation, bon, j'ai l'impression que, en tout cas, les gens qui s'occupent de ça n'ont pas pris la mesure du phénomène. Et de frustration en frustration avec la prolifération des armes légères, moi, j'ai quitté Diabali au mois de mai dans le cadre d'une étude sur l'extrême violent. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, en réalité, ne présage rien de bon. Et je n'ai pas tout à fait l'impression que le centre soit une préoccupation majeure. Je sais que le ministère de l'administration territoriale veut faire une rencontre fin septembre vers le 25 à Mopti, qui va regrouper donc les leaders des différentes localités, d'accord. Mais en réalité, tant qu'on ne touche pas à la racine du mal, les groupes vont continuer à se créer. Et je n'ai pas l'impression qu'on condamne même la création de groupes d'autodéfense. Tout est fait comme si, en réalité, bon, on laisse faire et puis on essaie de voir. Ce qui nous préoccupe, c'est beaucoup plus qu'idal. Bon, malheureusement, c'est comme ça pour le moment.
Professeur André Boujou, les groupes d'autodéfense à caractère ethnique qui se multiplient, alors cette situation ne risque-t-elle pas de compliquer les choses? Elles ne sont déjà pas simples.
Elle est surtout révélatrice d'un affaiblissement, même plus fort que ça, d'une déliquescence du pouvoir central. À partir du moment où vous avez création de milices, je ne dirais pas groupe, moi je dirais milices, c'est une autre connotation, de milices d'autodéfense à caractère ethnique, on le voit avec les Touaregs, avec les Maures, les Arabes, les Bambara aussi, puisqu'ils se sont organisés en groupe d'autodéfense contre les Peuls d'ailleurs, à la suite des affrontements entre les Peuls. Maintenant, vous avez aussi l'homme d'accueil, donc les Sangol, vous avez Gandaïso, donc les Peuls. Donc c'est une prolifération, je ne sais plus à combien d'en est, 7, 8, disons une dizaine pour exagérer un petit peu, mais ça c'est quand même assez grave. Ça veut dire que les conditions d'autorité, de souveraineté de l'État ne s'exercent plus sur l'ensemble du territoire national, mais ce sont des groupes d'autodéfense ou des groupes armés autonomes qui font régner la loi sur un territoire, sur un espace qu'ils ont défini. Je prends par exemple le mouvement récent du MCA qui a été fait par Moussa à Charatouban. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une nouvelle territorialité. Ça veut dire qu'actuellement, la notion de territoire national n'a plus de validité opératoire qui peut s'exercer sur l'ensemble du territoire, puisque se met en œuvre à une multiplicité de territorialités qui sont contrôlées et soumises à des pouvoirs locaux armés. C'est quand même une situation extrêmement grave.
Alors, il nous reste très peu de temps. Cette dernière question, chacun va y répondre en retenant qu'il n'aura qu'une seule minute. Alors, on commence par vous, André Corneau. Est-ce qu'on sent aujourd'hui un changement au niveau du mandat de l'ONU qui devrait en principe être bis? C'est ce qu'on avait dit après son renouvellement.
Pas de changement perceptible sur le terrain, pour moi.
Aucun changement.
Aucun changement.
Mm-hmm. Brema et Ridico.
Sincèrement, moi je pense que pour le moment ça ne sert pas à grand chose. En tout cas ça ne sert pas les populations. Peut-être ça sert tous les fonctionnaires et tous ceux qui sont signataires de tout ça. Mais les populations continuent à souffrir. Et donc, le changement n'interviendra que lorsque les missions des Nations Unies, lorsque les FAMA, lorsque tous les partenaires mettront les populations au centre et qu'on se rendra compte que dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, ce sont les populations qui sont les victimes et c'est elles qui, en réalité, sont les plus aptes à dire les conditions de collaboration. Donc, il faut gagner plutôt leur confiance. Ce n'est pour le moment. Bon, on a l'impression que tout cela là va... On va de mal en pire.
Professeur André Bourgeois, est-ce que vous sentez le mandat de l'ONU, le mandat de l'aménagement un peu plus robuste après son renouvellement?
Non, ça me fait sourire parce que depuis que l'aménagement existe, on pose toujours la même question. Donc, au vu, encore une fois, moi j'ai l'habitude de m'appuyer sur des faits, hein, sur du concret. Je ne vois pas en quoi cette grande mission internationale de l'ONU est porteuse de changement. Je pense que s'il y aurait changement, le changement ne peut que résulter de la modification des rapports de force politique au niveau national. Et cette modification des rapports de force politique au niveau national postule l'implication des populations et du peuple malien dans leur destin. Or, jusqu'à présent, ils sont quand même un petit peu écartés. Si je renvoie toujours au problème de la signature des accords de paix, moi j'ai été choqué, non pas que je sois un grand fétichiste de la démocratie, mais j'ai quand même été choqué que ces accords de paix n'aient pas été discutés au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, quand même, elle incarne aussi le pouvoir du peuple, puisque ce sont les élus du peuple. Alors on signe des accords et on ne prend pas du tout en considération des instances qui sont directement concernées. Bon, c'est quelque chose quand même qui me choque. La deuxième chose aussi qui est assez révélatrice, quand vous avez les autorités intérimaires qui veulent s'exercer, qui veulent s'appliquer, l'exemple de Gao, quand vous avez une armée qui est nationale, républicaine, qui tire, je dis bien, qui tire sur des manifestants, qui organise une manifestation pacifiste, 3 morts, moi ça me fait froid dans le dos. Et ça a été aussi la même chose plus récemment à Bamako. Et donc ça a quand même un gros travail politique, de sensibilisation politique, psychologique, sociologique, si vous voulez, à faire auprès aussi des hommes en uniforme. Je ne sais pas s'il y a eu des sanctions qui ont été prises, Mais encore une fois, quand une armée républicaine tire sur des manifestants pacifistes, qui étaient de surcroît.
Merci beaucoup, merci. Merci, professeur. Professeur André Bourgeot, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous, docteur Brema Elidiko. Merci également à vous, Ousmane Cornet, pour votre participation. Nous nous retrouvons demain pour un autre sujet. À demain donc.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo de Maudi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.